La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans la 11e émission de la Semaine de l'Art. Pour cette émission, nous recevons donc Olivier Mellet, Associate Director of Curatorial Affairs du Dallas Museum of Art.
La chronique.
Il y a quelques semaines, nous avions écrit un article sur un sujet très préoccupant pour les amoureux du patrimoine de Paris, la multiplication des cadenas sur les ponts parisiens. Le pont des Arts en est couvert, mais aussi le pont de l'Archevêché. L'envahissement progresse désormais aussi sur deux très belles passerelles contemporaines, la passerelle de Solferino, dite aussi Léopold César Senghor, qui relie le jardin des Tuileries au musée d'Orsay, ou la passerelle Simone de Beauvoir, près de la Grande Bibliothèque. Même le pont Alexandre III est touché par cette mode, qu'on peut qualifier de débile, puisque de gros cadenas ont été accrochés à certaines statues en bronze. Ce phénomène menace non seulement la beauté d'un des plus beaux sites mondiaux, d'ailleurs classé à ce titre par l'UNESCO, mais aussi la sécurité des personnes, puisque des morceaux de grille s'écroulent régulièrement. Selon Le Monde, il pèserait plus de 300 kg par mètre, ce qui, compte tenu de la taille du pont, équivaut au total à plusieurs tonnes. De quoi menacer la pérennité de ces structures. Devant l'indifférence, voire la complaisance de la mairie de Paris, sans parler du silence de l'UNESCO dont on se demande parfois à quoi elle sert, ce sont deux Américaines qui ont pris les choses en main. Deux Américaines vivant à Paris, Lisa Anselmo et Lisa Taylor-Ruff, qui ont mis en ligne une pétition qui commence à faire parler d'elles. Une pétition qui regroupe désormais, en additionnant le site anglais et le site français, plus de 1500 signatures, et que, bien entendu, j'engage tous les lecteurs et tous les auditeurs de la Tribune de l'Art, tous les amoureux de Paris en France et à l'étranger, à signer et à faire signer. Ce combat est un combat qui peut être gagné. Il est tout de même invraisemblable que de simples citoyens soient obligés de se mobiliser pour obliger les politiques à faire leur travail. À Venise, une bataille contre les grands paquebots qui amènent l'horde de touristes à proximité de la place Saint-Marc, menaçant ainsi gravement la ville, elle a encore menée par les habitants et les défenseurs du patrimoine. Alors que l'on pouvait croire la bataille gagnée, une loi ayant été votée à la fin de l'année dernière, celle-ci vient d'être abrogée par un tribunal régional sous la pression des tour opérateurs. Le mercantilisme a vaincu, provisoirement on peut l'espérer, mais le combat va être poursuivi. En revanche, toujours à Venise, d'après le témoignage de plusieurs personnes qui en reviennent, les publicités géantes qui envahissaient la ville semblent avoir à peu près disparu. Contrairement à Paris, où elles fleurissent un peu partout, sans que cela ne semble émouvoir personne parmi les politiques. Qu'il s'agisse de combats contre les cadenas, les publicités ou les paquebots géants, les ennemis sont les mêmes. La bêtise et l'inculture d'abord, l'appât du gain et l'absence de scrupules de l'autre. Face à cela, il est inutile d'attendre quoi que ce soit de la plupart des hommes politiques. On ne peut pas se plaindre si l'on subit. Ne subissez plus, signez, manifestez-vous, écrivez à vos élus, parlez-en autour de vous, c'est la seule manière de leur faire entendre raison. Olivier Mellet, donc vous êtes, je ne répéterai pas le titre qui était un peu compliqué, donc vous êtes associate directeur, vous êtes conservateur en charge des peintures européennes,
oui,
au Dallas Museum of Art. Mais avant d'être cela, vous avez travaillé en France, vous avez commencé votre carrière en France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Je crois même que vous avez un parcours un peu atypique par rapport à certains conservateurs.
J'ai un parcours effectivement qui commence maintenant à être long et atypique probablement. En fait, après des études à la Sorbonne et à l'École du Louvre, j'ai mes premiers postes, en fait il y a des postes de vacataire, mais dont j'ai gardé un excellent souvenir, c'était d'abord à la Bibliothèque Nationale, à la réserve des livres rares et précieux, où j'ai travaillé avec Madame Vérin-Forer, avec Jean Toulet, qui a été pour moi quelqu'un d'une sorte de révélation de savoir, et puis Dominique Coron, qui est maintenant le directeur de la réserve des livres rares et précieux à la Bibliothèque Nationale. Ensuite j'ai eu période d'un an, j'ai travaillé au Petit Palais comme assistant de François Perrault, qui était le conservateur des sculptures, et donc j'ai eu le plaisir de travailler sur la collection de sculptures du Petit Palais pendant presque un an. Et puis j'ai essayé de passer le concours de conservateur que j'ai raté, et l'ayant raté, j'ai décidé que il fallait quand même que je trouve de quoi à la fois vivre et continuer à travailler dans l'histoire de l'art et et proche des œuvres. Et j'ai commencé à travailler pour des marchands, qui étaient d'abord, il y avait Jacques Fischer et Chantal Kiner. Et puis après, j'ai trouvé un emploi beaucoup plus stable, et puisqu'il a duré près de 8 ans, comme chercheur et assistant en fait de Charles et André Bailly, qui étaient des, qui sont toujours des marchands. Enfin, Charles Bailly est toujours un des grands marchands de peinture ancienne. Et donc j'ai travaillé avec lui pendant, c'était surtout lui avec lequel je travaillais, pendant 8 ans. Ce qui est effectivement un parcours un peu atypique dans le milieu des conservateurs. Ensuite, j'ai passé le concours que j'ai réussi cette fois en 1991. À la sortie, Pierre Rosenberg, avec un courage certain, rétrospectivement, m'a pris au département des peintures, dans lequel j'ai essentiellement d'abord travaillé sur les peintures anglaises, puis ensuite les peintures espagnoles, avec un petit peu de peintures américaines. La collection de peinture américaine étant désormais au Louvre extrêmement petite, après avoir été, dans les années 30 jusqu'à 60, la plus grande, probablement, collection de peinture américaine en dehors des États-Unis.
Et pourquoi des petites peintures?
Parce qu'en fait, elle a été diminuée des dépôts faits au musée d'Orsay, enfin, du transfert au musée d'Orsay, c'est pas vraiment un dépôt, et aussi d'un certain nombre d'œuvres qui se sont retrouvées au centre Pompidou, au musée national d'art moderne. Et aussi à Blérancourt. Donc en fait, la collection, qui était une collection extraordinairement cohérente, qui avait été commencée très tôt, dans les années 1870, et de manière très régulière, avec une sorte d'attention de la part du gouvernement français et des conservateurs, en particulier Léonce Bénédicte, qui était une chose tout à fait extraordinaire. Alors maintenant, on en voit un peu moins l'importance, parce qu'elle a été justement dispersée. Donc au département des peintures, je me suis surtout attelé au début à la peinture anglaise, qui avait toujours été quelque chose d'assez négligé, il faut bien le dire, au département des peintures, et en général en France, avec très très peu de littérature française sur l'art britannique. Pour ainsi dire, les collections avaient été à peu près pas étudiées, que ce soit au Louvre ou en province. Et donc un de mes grands soucis, ça a été d'abord d'étudier les collections, de les publier, et de publier non seulement les collections du Louvre, mais de publier les collections parisiennes.
Françaises, puisque vous avez même fait une base de données, d'ailleurs.
Et j'ai fait une base de données à la fin, qui est la base de données qui s'appelle d'Outre-Manche, et qui compte environ 3000 œuvres, sculptures, peintures et arts décoratifs, et qui a, je crois, changé notablement la vision qu'on a de l'art anglais dans les collections publiques françaises. Et récemment, j'ai publié, avec le soutien extrêmement important d'Elisabeth Foucault-Walter, la collection, dans la collection des catalogues, je dirais, sommaires raisonnés du département des peintures, les collections britanniques et les collections espagnoles. Et la collection américaine a été surtout faite par Guillaume Varou.
Mais en fait, la collection anglaise du Louvre est assez importante, finalement, quand on la voit. Alors, on la voit pas beaucoup, d'ailleurs, parce qu'elle a encore un problème de place.
Je me souviens avoir fait visiter la collection de peinture anglaise à la reine d'Angleterre, c'est un souvenir inoubliable, en espérant qu'elle allait bientôt trouver une place dans une salle ou dans une grande salle du Louvre. Et je crois que la reine d'Angleterre attend toujours l'installation de la collection anglaise.
Alors, vous avez également participé à deux projets dont vous savez la Tribune de l'Art n'était pas un très grand fan, ne l'est toujours d'ailleurs pas. Alors, il y a un projet qui est terminé, c'est le Louvre Atlanta, et un deuxième qui continue, qui est le Louvre Lens. Dites-nous un peu.
Parlez-nous un peu
de ces deux projets.
Oui, la Tribune de l'Art est un endroit parfait pour en parler.
Est-ce que vous pourriez répondre d'ailleurs à la Tribune de l'Art, parce que finalement, c'est vrai que sur la Tribune de l'Art, souvent, on écrit des choses qui ne sont pas toujours agréables, d'ailleurs, pour ceux qui font les choses, mais ils n'ont pas forcément la volonté de répondre. Et là, vous pouvez répondre à mes critiques.
Je me souviens d'un débat qu'on a eu ensemble à la Sorbonne, d'ailleurs, je crois, avec Laurent Lebon.
C'est vrai, oui, tout à fait. Oui,
Où j'étais. On était tous les trois face à un grand public, je me souviens. Et c'était au moment probablement le plus houleux de la polémique sur le Louvre-Lens et le Louvre-Atlanta. Alors, sur les deux projets, je n'ai aucun regret, et au contraire, j'ai beaucoup de plaisir à m'en souvenir et à en parler. Pour le Louvre-Atlanta, je pense que le projet a été, en tout cas, pour Atlanta, sans aucun doute, une vraie révélation pour le public d'Atlanta, et pas seulement le public d'Atlanta. Je pense que c'était aussi un projet extrêmement équilibré par rapport aux collections du Louvre, et ça a été d'ailleurs conçu comme ça, je l'avais conçu comme ça, en essayant de faire, de mettre en valeur tous les départements du Louvre, et non pas simplement ce qu'on fait d'habitude dans ces projets où il y a une les musées décident de montrer leurs œuvres à l'extérieur en échange d'un un échange financier aussi. Ces projets sont souvent extraordinairement focalisés sur les collections de peinture. Or, à Atlanta, on a montré les sept départements à l'époque, c'était sept départements à l'époque, et on les a montrés d'une manière, je crois, assez pondérée, variée, diversifiée. De ce point de vue-là, j'en étais très content. Et ensuite, après, le Louvre-Lens, moi, je dois dire que la visite du Louvre-Lens, le jour de l'inauguration, alors que...
Je me rappelle, nous les sommes croisés, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. C'est un projet que j'avais, dont j'étais chargé par Henri Loirette, et que j'ai mené à bien, en tout cas le projet a été mené à bien dans les 3 ans qui m'étaient impartis. J'ai rendu le projet culturel et le projet muséal en 2009, signé par toutes les parties. Donc j'avais réussi à faire mettre tout le monde d'accord sur le programme et sur les expositions, que ce soit du côté politique, c'est-à-dire la région, le département, la commune, et puis de l'autre côté, il y avait aussi les départements qui étaient... dans ces projets-là, des fois, le plus compliqué, c'était pas tellement d'avoir l'accord des partenaires politiques, mais c'était plutôt d'avoir les prêts suffisants de la part des départements. Alors je sais ce que la Tribune de l'Art en pense, mais je sais aussi que quand je suis allé voir le bâtiment, quand je suis allé à l'inauguration, j'ai été d'abord extraordinairement frappé par la beauté du bâtiment, que je trouve moi magnifique, et je trouve que la Galerie du Temps, avec ses murs qui reflètent et ne reflètent pas, et puis cette gigantesque marée d'œuvres devant moi, c'était beaucoup plus beau que ce que j'avais imaginé.
Alors, Vincent Pomarède, lorsque j'ai écrit mon article assez critique, ma foi, je trouve, sur cette installation, a trouvé que j'étais finalement pas si critique que cela, parce que j'ai quand même, je suis assez d'accord sur l'architecture elle-même, l'architecture pas extérieure, l'architecture intérieure plutôt. C'est vrai que cette galerie du temps est plutôt assez belle dans son architecture, c'est vrai que voir toutes ces œuvres, etc. Moi, bon, j'ai écrit ce que, on va pas refaire les choses ici.
Je m'en souviens très bien.
J'ai écrit qu'effectivement, par exemple, ce qui me gênait un petit peu, c'est qu'effectivement, il y a un mélange de, effectivement, c'est normal, on saute de 10 000 à 20 000 ans, et puis un autre, on passe de 20 ans ou 50 ans.
On n'est pas de 10 à 20 000.
Début, si, peut-être, un petit peu. En tout cas, il y a des choses qui se rapprochent, et une des choses que je reprocherais, en dehors de tout, du principe que moi je conteste de déplacement des œuvres, vous le connaissez, oui. Et dans la réalisation, ce que je conteste, c'est que je pense pas que les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'art peuvent vraiment comprendre ce parcours. Alors je ne sais pas s'il y a eu des retours, si vous avez eu des retours par rapport à la vision qu'ont les visiteurs, mais je ne comprends pas comment un visiteur qui verra une œuvre mésopotamienne à côté de, pas très loin d'une œuvre égyptienne ou d'une œuvre faite dans une autre civilisation, à quelques dizaines ou peut-être centaines ou mille ans d'écart, peut-être pas 10 000 ans, peut-être millions d'écart, vont comprendre. Je ne suis pas certain, mais peut-être...
J'étais pas tout seul à faire ce projet, il se trouvait que je le dirigeais, mais que on était beaucoup à travailler là-dessus. Une grande partie du travail, il a été un travail aussi de ce qu'on appelle de médiation, c'est-à-dire aussi d'éducation. Et on a essayé effectivement de rendre, par une grille physique, qui était une grille d'un côté géographique et de l'autre côté, dans l'autre sens, qui était une grille chronologique, d'essayer de rendre, non pas cohérent, parce que tout ça n'a pas une grande cohérence, je veux dire, la diversité des arts dans le monde...
Je ne veux pas dire.
Non, mais la diversité des arts n'a aucune cohérence en soi. L'art moghol, la cohérence avec l'art de la même époque, même en Angleterre, puisqu'il y a, à ce moment-là, il y a des liens. Mais ceci dit, je trouve que la cohabitation... ou en tout cas la mise en regard d'œuvres de la même époque, il y a quelque chose que je trouve assez magique, en tout cas dans la galerie du temps. Mais vous savez très bien que je n'ai pas non plus un tempérament de polémiste et que j'ai pas non plus un tempérament. Une grande partie de ce que j'ai fait là, je dois dire que j'en ai tiré moi-même énormément de choses parce que j'ai beaucoup appris en travaillant sur le projet, mais aussi je dois dire que quand j'ai vu le public de Lens découvrir le musée, j'en ai été très très touché, assez bouleversé, et je pense que c'est un musée beaucoup plus facile au fond dans son unicité géographique, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, on est dans une seule pièce et on a un seul mouvement. Je pense qu'on peut apprendre énormément de choses. Mais toutes les opinions sont dans la nature.
Donc, vous avez, après avoir. Vous étiez toujours parallèlement chargé en charge des peintures anglaises et espagnoles.
Oui, jusqu'à. Non, jusqu'à. En fait, les choses se sont arrêtées et c'est aussi probablement une des raisons qui font que j'ai aussi souhaité à un moment revenir aux œuvres, c'est que tant que j'étais sur le projet d'Atlanta, j'étais toujours chargé de mes collections. À partir du moment où j'ai été chargé du projet du Louvre Lens, le projet était trop gros pour que je puisse garder en fait une fonction de conservateur au sein du département des peintures. Donc j'ai abandonné mes collections, en croyant au début que je m'y ferais, et je m'y suis pas si bien fait que ça, en fait. Je pense que c'est quand même être près de ses œuvres et avoir une collection, ça reste quand même quelque chose de très important.
Alors, c'est en quelle année que vous êtes arrivé, que vous êtes parti de France donc pour aller à Dallas ?
2009.
Ça fait maintenant presque 5 ans.
Ça va faire 5 ans dans quelques mois, oui.
Et donc, alors, expliquez-nous en deux mots, et on reviendra ensuite sur le musée, hein, nous expliquer ce que c'est que le Dallas Museum of Art. On parlera éventuellement, j'aimerais bien qu'on parle des différences entre les musées français et les musées américains, etc. Mais votre mission, votre rôle, est-ce qu'il a évolué déjà
Évolué de manière, enfin en 4 ans et demi, il a même beaucoup beaucoup évolué, puisque je suis arrivé au Dallas Museum of Art comme conservateur chargé des départements américains et européens. Alors c'est un bien grand mot pour un département, deux départements qui ont chacun un conservateur et un curatorial assistant et aussi des vacataires pour chacun des départements. Donc en fait c'était une relativement petite équipe de 5 personnes. Et puis au bout d'un an et demi, par le plus grand des hasards, la directrice qui m'avait recruté, Bonnie Pittman, a démissionné pour des raisons de santé, et le board est venu me voir et m'a demandé si je voulais bien assurer l'intérim de la direction du musée tout entier, non pas seulement de la conservation, mais de la direction tout entière, de la direction du musée tout entier, ce que j'ai fait pendant un an jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur qui est Max Anderson. Et quand Max Anderson est arrivé, et c'était donc il y a à peine 2 ans, il m'a demandé de reprendre mon poste de conservateur pour la peinture américaine et européenne, auquel il a ajouté en fait un poste de conservateur en chef de tous les départements, de l'art contemporain jusqu'à l'Égypte, un rôle de directeur associé, c'est-à-dire
adjoint du directeur.
Voilà. Vous êtes on est trois.
D'accord.
Voilà. Très bien. Avec chacun une des responsabilités un peu différentes.
Les nouvelles très très brèves.
Quelques brèves donc, que d'ailleurs nous traiterons par des articles sur le site, puisque nous avons appris il y a quelques instants pour certaines d'entre elles. Donc ce sont des bonnes nouvelles d'ailleurs. La préemption par le musée du Louvre de deux très beaux dessins de Giovanni Francesco Romanelli, préparatoire au décor de l'appartement d'Anne d'Autriche au Louvre. Ce sont deux dessins qui passent en vente cet après-midi chez Auction Art. Donc vous voyez sur la Tribune de l'Art, vous êtes informé quasiment en direct des acquisitions, comme vous l'aviez été dimanche dernier également, de préemption par le département des arts graphiques également du Louvre. Donc ces deux dessins, qui sont vraiment très beaux, importants, ont été acquis pour la somme de 60 000 euros hors taxes, hors frais d'achat, pardon. Donc cet après-midi. Également cet après-midi, dans la même vente, préemption de deux projets de décor de Charles Percier pour les Mystères d'Isis de Mozart. Alors vous direz, les Mystères d'Isis de Mozart, personne ne connaît cet opéra. En fait, c'est une adaptation de La Flûte Enchantée. Et donc ce sont des décors, retour d'Égypte en fait, de 1801, donc assez beaux, des belles aquarelles de Charles Percier. Donc ça, ils ont été acquis par la bibliothèque de l'opéra. En fait, voilà deux dessins. On parle de dessins parce qu'évidemment, c'est la semaine du dessin.
et la semaine du dessin dit salon du dessin. Donc le salon du dessin sur lequel nous sommes en train d'écrire un article qui va paraître, je pense, j'espère, ce soir assez tard, est une très belle édition. Alors, je me tourne, avant d'en dire deux mots, peut-être vers Olivier Ménève. Vous êtes forcément, nous sommes, les bureaux de la Tribune de l'Art sont à deux pas du Palais de la Bourse où se tient cette manifestation. C'est remarquable, non?
C'est remarquable à beaucoup, beaucoup de points de vue. C'est remarquable parce que c'est, la qualité des œuvres dans chacune des galeries qui présentent des dessins est d'un niveau quand même tout à fait éblouissant. Je dois dire que j'ai l'impression même que c'est vraiment une des très très bonnes années du Salon du Dessin. L'autre chose qui est plus personnelle, je dirais, c'est que maintenant, étant un conservateur américain, je comprends deux choses. La première, c'est que pour le dessin, c'est la manifestation essentielle de dessin dans le monde. Et tous les conservateurs de dessin importants de tous les musées, que ce soit américains, canadiens, anglais, allemands, etc., viennent à la semaine, au Salon du Dessin. Et j'ai compris aussi, en étant un conservateur américain, que c'était des manifestations indispensables. Parce que quand on n'est pas dans les grandes villes capitales, comme New York, Londres et Paris, où il y a abondance de marchands et aussi abondance de salles des ventes ou de ventes aux enchères, de maisons de vente, il est très très important d'avoir des manifestations de ce type-là, comme Maastricht. Alors quand on est parisien, et moi j'ai été parisien pendant des années et des années, c'est vrai qu'on se dit, bon, on peut s'en passer, puisqu'après tout on va à Londres une fois dans l'année, on va à New York une fois dans l'année, ou deux fois, ou trois fois, et puis on a l'impression qu'on a quand même vu pas mal de choses. Mais quand on n'est pas dans les grandes villes capitales, ces salons-là, c'est vraiment des salons déterminants, à la fois pour rencontrer des collègues, pour évidemment pouvoir acheter, pour pouvoir voir ce qui est sur le marché, pour comprendre le marché et comprendre tout ce qui sort pour une année ou deux.
Qu'est-ce qui vous a marqué? Un dessin peut-être qui vous aurait particulièrement marqué?
Non, alors, il y a tous les... moi, j'ai trouvé le stand sur l'architecture de Déprouter tout à fait remarquable.
Enfin, avec un très beau catalogue, on en dira un mot tout à l'heure. Remarquable. Et j'en parlerai bien sûr sur le site.
Et puis, je dirais un peu des plus nouveaux, qui ont fait vraiment des efforts, qui présentent des choses un peu différentes, qui ont Mathieu Néhouse, Vincent Lécuyer, pour parler des...
Nathalie Motte également, qui a un stand pour la première fois sur le Salon du Dessin, avec de beaux dessins.
Et donc, moi, c'était des choses
C'est encourageant, finalement, parce que c'est vrai qu'à Paris, on a parfois l'impression que le marché de l'art est mal aimé, des fois par les politiques, et on a un peu l'impression que l'économie n'est pas très bonne, et donc que le marché de l'art s'en va. Et en fait, pas du tout, hein, quand on voit la vitalité... non seulement du Salon du Dessin, mais autour du Salon du Dessin, il y a un nombre d'expositions absolument incroyables. J'en parlerai bien sûr dans plusieurs articles là, mais pour retenir, par exemple, je sais pas, chez Emmanuel Marty de Cambière, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller.
Non, j'ai pas vu.
Où ils font une très belle exposition sur le dessin napolitain, mais qui est une exposition de niveau musée. Ça pourrait être une exposition, le dessin napolitain au XVIIe et XVIIIe siècle, avec un beau catalogue. C'est quasiment une exposition muséale. Donc c'est vrai que Paris a quand même beaucoup d'atouts à faire valoir. D'ailleurs, je sais que certains de vos confrères, comme Patrice Narandel, vient souvent en France pour acheter, et il trouve qu'il y a beaucoup de choses encore à trouver. Est-ce qu'il y a un marché de l'art à Dallas?
Il y a un marché de l'art à Dallas, mais c'est un marché de l'art qui est avant tout contemporain. Et il y a quelques antiquaires, mais ce sont surtout des antiquaires de décoration. Il y a très très peu d'antiquaires. Y a pas d'art, je dirais même qu'il n'y a pas d'antiquaire d'art ancien comme on peut en avoir ici.
En fait, pour un conservateur, j'ai bien compris que vous occupiez de tout le musée, mais vous êtes plus sur la peinture américaine et européenne. Y a une date d'arrêt ou vous allez jusqu'à l'art contemporain?
Pour l'européen et l'américain, ça s'arrête en 1945. Après, ça passe à un autre département qui est l'art contemporain.
Tout ce qui est pour un conservateur qui travaille aux États-Unis, quand il veut acheter, donc il y a New York, Londres et Paris, ce sont les trois grandes capitales, ou est-ce que vous avez d'autres lieux finalement?
Je crois que plus on diversifie ses sources, plus ça dépend ce qu'on cherche à acheter. Mais juste pour finir sur le Salon du Dessin, ce que je trouve aussi très important dans le Salon du Dessin, c'est la présence de galeries étrangères, de galeries allemandes, Arnold Divi, Leclerc, Guillermo de Osma. Enfin, on a une énorme chance à Paris et au Salon du Dessin de voir arriver ces galeries qui aussi nous apportent des choses qu'on connaît moins bien, il faut bien, bien dire.
Alors, ces nouvelles très très rêves, donc, ils sont très très longues, en fait. Surtout quand on les discute avec notre invité. Alors, une dernière nouvelle très très brève. Bon, je vais passer assez rapidement cette fois-ci sur les élections municipales. Le premier tour, je ne m'attarderai pas, mais hélas, le patrimoine et les musées ne sont manifestement pas des priorités pour nos concitoyens. Dans presque toutes les villes dont nous avons dénoncé les destructions et le manque de vision patrimoniale, les sortants sont assurés ou presque d'être réélus. Même à Paris, Hidalgo a beau, excusez-moi, Anne Hidalgo ou Madame Hidalgo a beau arriver deuxième, il est probable qu'elle sera comme prévu la nouvelle maire de Paris. En tout cas, la Tribune de l'Art ne baissera pas la garde face à toutes ces menaces qui s'annoncent. Parlons maintenant, effectivement, donc revenons au Dallas Museum of Art. Quelle est la... Alors, les lecteurs, les abonnés à la Tribune de l'Art peuvent aller voir sur la Tribune de l'Art un article assez long que j'ai consacré parce que je suis venu vous voir il y a à peu près un an maintenant à Dallas et j'ai pu montrer à quel point ce musée, finalement assez méconnu, en tout cas en Europe, est un beau musée avec de belles collections. Mais rappelez-nous un peu donc les collections, quelle est l'ambition du musée, quelle est sa politique d'acquisition, les expositions, voilà.
Alors, le musée de Dallas, le Dallas Museum of Art, c'est un musée qui a maintenant 110 ans, ce qui est assez vieux, en fait, pour une ville qui est une ville toute petite. Alors, évidemment, c'est une institution qui a évolué d'une minuscule salle en haut d'un immeuble au bâtiment qu'on connaît maintenant, qui est un grand bâtiment moderne, très austère, qui date de 1985, avec une addition de 1992, par un architecte qui s'appelait Edward Larrabee Barnes. Le musée a été le premier musée à s'installer dans le centre-ville. Auparavant, le musée était installé dans un endroit tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Fair Park, qui est cet ensemble de 1936.
Grâce à vous, je répète, c'est pour les lecteurs, c'est grâce à vous que j'ai découvert cet endroit, parce que vous avez publié dans l'Estampille un article consacré à cet ensemble des années 30, et j'ai moi-même consacré un article à cette effectivement, en deux mots, enfin, c'est vraiment magnifique.
C'est probablement l'ensemble le plus cohérent d'architecture, d'exposition, puisqu'en fait, le bâtiment qui est sur 200 hectares, l'ensemble est sur 200 hectares, il y a encore à peu près 70%, 80% des bâtiments de 1936 en place, avec leur décor. Il y a un grand effort de restauration fait par la ville. L'avenir de l'endroit reste quand même problématique parce qu'il s'est vidé de toutes ces institutions et en particulier des musées.
C'est vrai, quand on va sur place et qu'il n'y a pas de foire, parce qu'il y a des fois une foire.
Il y a une très grande foire agricole.
Ouais, la grande foire. Quand on va sur place, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un endroit totalement déserté.
Complètement.
Très peu de touristes, il faut le dire. Mais c'est magnifique. Mais c'est un peu, effectivement, on a l'impression de se retrouver un peu dans le film de Bertrand Blier, Buffet froid, vous savez, dans ces grands ensembles où il n'y a plus personne. Et on se demande si on ne va pas se faire assassiner au coin d'un. Mais c'est magnifique.
C'est un endroit tout à fait extraordinaire. Et donc le musée, après avoir été installé justement à Fair Park de 1936 à 1985, s'est retrouvé en centre-ville. Et autour du musée, c'est construit depuis une sorte d'écosystème artistique avec un musée qui est le musée de Nasher, le Nasher Sculpture Center, qui est dévoué à la sculpture, en particulier à la sculpture du XXe siècle, avec un très beau bâtiment de Renzo Piano, un petit musée d'art asiatique, puis ensuite l'opéra, le symphonie, l'orchestre symphonique, le théâtre. Donc en fait, un vrai changement dans la politique culturelle et dans les habitudes culturelles de Dallas, puisque maintenant tout est regroupé au centre, ce qui anime énormément ce centre-ville qui était très déserté. Et puis dernière partie de cet ensemble de musées, le Meadows, qui est dans une université qui n'est pas très loin, est encore à peu près en centre-ville, et qui est dévoué à l'art espagnol et qui a une collection tout à fait extraordinaire d'art espagnol. Donc le musée, le musée de Dallas Museum of Art, c'est un musée, je dirais, de type universaliste, c'est-à-dire on essaye de s'intéresser à tout. On a des collections très modestes pour ce qui est de l'antiquité égyptienne ou même de l'antiquité classique, et on est beaucoup plus riche en revanche dès qu'il s'agit d'antiquité indienne, chinoise. Il y a encore des efforts à faire de ce côté-là, et puis aussi des antiquités cambodgiennes, une très belle collection d'art indonésien, très important, une très belle collection d'art africain, et puis ensuite une collection d'art européen et américain, et ensuite une grande collection d'art contemporain, et enfin une collection d'art décoratif, surtout américain, et avec un accent mis sur l'argenterie.
Alors, il y a une chose qui m'avait frappé quand j'étais venu, c'était que toutes vos collections ne sont pas forcément à vous. C'est-à-dire qu'une partie des collections sont déposées par les fondations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ces fondations ?
Oui, alors, pour des raisons diverses, les collections du musée de Dallas appartiennent pour une petite partie au musée en tant que tel, et par là à la ville. Avec toutes les questions qui se posent en ce moment, avec ce qui se passe à Détroit.
On pourra peut-être y revenir si vous avez des nouvelles pour ça.
Et ensuite, il y a tout un certain nombre d'organisations et de fondations qui ont été créées de manière ad hoc, de temps en temps, pour justement suppléer à des faiblesses de la ville, et qui sont des fondations dont le but et de déposer des œuvres ou d'enrichir les collections du musée, tout en gardant la propriété. Mais à partir du moment où une œuvre rentre dans cette fondation, son seul lieu de dépôt sera le musée. Si jamais la fondation, pour une raison ou une autre, disparaissait, les œuvres devraient revenir au musée. Parce qu'en fait, le seul but de la fondation, en l'occurrence, c'est de déposer ses œuvres au musée de Dallas, et pas au musée.
Est-ce que c'est fréquent dans les musées américains ?
Je pense que le musée de Dallas est peut-être un peu plus complexe que d'autres, mais je pense que c'est une chose qui se passe dans plusieurs musées américains.
Et en tout cas, on peut considérer que ces œuvres sont des collections, font partie des collections.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et alors, et ces collections, donc, elles sont riches, très riches, mais vous les enrichissez, alors. On a eu l'occasion sur la Tribune de l'Art de publier récemment plusieurs de vos achats, dont vraiment certains qui nous ont paru extrêmement importants. Récemment, Le silence d'Auguste Préau, donc vous avez acheté chez Patrice Bélanger. Donc, j'ai écrit comme à quel point c'est vous qui m'avez dit que c'était extrêmement émouvant parce que vous l'avez acheté alors que Patrice Bélanger...
La veille de sa mort, en fait. Le vote du comité d'acquisition a eu lieu la veille de la mort de Patrice.
Alors, ce que je n'ai pas dit dans la brève, c'est que plusieurs personnes m'ont dit que c'est un des plus beaux... bel exemplaire de cette sculpture de Préau qu'on connaît. Et en plus, vous m'avez souligné, effectivement, il y a l'encadrement d'origine.
Oui, c'est le silence de Préau qui se présente, en dehors de deux exemplaires en bronze qu'on connaît, la dizaine d'exemplaires qu'on connaît dans le monde du silence de Préau en plâtre se présente souvent en plâtre non patiné. Pour certains qui ont, à mon avis, souffert un peu du nettoyage. Et celui-là avait deux avantages. Il avait une patine d'époque à peu près intacte et il avait encore son encadrement de 1850, qui était un encadrement assez simple, mais qui du coup donne une ampleur et une majesté au silence de Préau que peu d'autres exemplaires...
sur lesquels peu d'autres... Alors, dans toutes les œuvres qu'on a signalées, j'en signerai simplement deux autres. Un tableau de Guillaume Lethière acquis chez Talabardon et Gautier. Je veux dire, c'est un tableau que je connaissais depuis longtemps et que je n'ai pas compris pourquoi c'est pas un musée français qui l'a acheté. Je suis très jaloux de Dallas. Donc il faut se rendre à... Non, mais c'est un tableau magnifique.
Ah, c'est un tableau magnifique. C'est un tableau d'autant plus intéressant qu'il arrive dans la carrière de Guillaume Lethière juste après le salon de 1793, puisque celui de Dallas est de 1795, du salon de 1795. 1793, c'est le salon de la terreur, je dirais, et Guillaume Lethière se joint à l'enthousiasme révolutionnaire ou à l'enthousiasme terroriste, et il présente une mort des fils de Brutus devant leur père, avec le bourreau qui montre la tête des enfants. Et puis deux ans après, on sent très bien que l'esprit a un petit peu changé et qu'un petit peu de douceur ferait du bien. Et donc Guillaume Lethière abandonne pour un temps son goût du néoclassicisme révolutionnaire et fait un tableau qu'on pourrait presque considérer comme un des premiers tableaux troubadours. Alors c'est pas un tableau, le thème n'est pas médiéval, mais c'est un thème médiéval puisque c'est le thème des croisades. Puisqu'il est tiré de la Jérusalem délivrée, et par l'attention aux détails, par la beauté des costumes, par la finesse, le côté porcelainé, c'est un tableau tout à fait étrange et tout à fait extraordinaire.
Alors je renvoie les auditeurs, doivent regarder sur la Tribune de l'Art, en tapant Dallas Museum of Art, ils verront tous les articles qui ont été publiés sur le sujet, et comme ça, ils pourront voir le tableau. Donc, oui. La semaine de l'art renvoie à la tribune de l'art, et réciproquement, c'est tout à fait vertueux. Dernière acquisition qui, moi, m'a encore presque plus intéressé, parce que elle témoigne d'une capacité qu'ont les musées américains, en tout cas. Je dirais pas d'un courage, parce que je comprends pas. Pour moi, il n'y a pas de courage. C'est simplement, ça, c'est normal, je trouve, dans un musée, mais qu'on ne peut plus faire en France, et ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et ça va peut-être nous amener à parler de la différence entre les musées français et les musées américains. C'est l'achat d'un portrait anonyme. Un portrait d'artiste anonyme que vous avez acquis. Donc là, nous avons fait également une brève. Je trouve ce portrait magnifique. Donc, peu importe, on trouvera certainement un jour qui l'a peint. En tout cas, c'est une œuvre superbe. Et que de toute façon, on peut la situer, on sait, c'est
français. Oui, c'est 1780.
Voilà, c'est un portrait d'artiste dans son atelier. Et je sais, c'était déjà de plus en plus vrai, mais j'ai eu la confirmation par certains de vos confrères en France qu'ils ne présentent même plus de tableaux anonymes. Alors, si, des tableaux anonymes peut-être de primitifs italiens, parce que la plupart sont anonymes, très bien. Mais un tableau anonyme du 17e, du 18e ou du 19e siècle, c'est hors de question, on n'achète plus. Parce que, je ne sais pas, je pense qu'on a peur que si un jour on trouvait que l'artiste est un très grand artiste, on pourrait se faire revendre quel tableau. Parce que si le tableau... parce que si on découvre que c'est un tout petit artiste, alors là, on sera trompé. Donc, il y a absolument... La vie est risquée, je trouve. Et franchement, acheter un tableau anonyme... je parlais tout à l'heure de Patrice Barandel, qui a acheté aussi récemment un très beau tableau anonyme, une scène de Jean un peu étrange, dont nous avons parlé également. Donc, vous pouvez acheter des tableaux anonymes.
Oui, alors il y a plusieurs facteurs qui permettent ça. Il y a d'une part une certaine liberté, une grande liberté au sein du musée, enfin en tout cas à Dallas, pour moi de faire des choix. Mais ils sont d'autant plus grands dans ce cas-là que les sommes étaient très faibles. C'est-à-dire que je veux dire, c'est public. Le tableau a été acheté pour 25 000 dollars frais compris.
Donc c'est une petite somme. Mais même un tableau à ce prix-là, anonyme. Les musées ne le présentent pas en France.
Oui, mais l'avantage, c'est que les tableaux à ces sommes-là, en tout cas au musée de Dallas, sont achetés sur c'est un, comment dire, c'est un niveau discrétionnaire.
Voilà, c'est-à-dire ça, c'est encore une chose formidable.
Je le présente évidemment, oui. Et je suis très heureux de le présenter devant le comité et devant le board, mais je n'ai pas à demander l'autorisation. Voilà.
Il
y a une limite, hein.
C'est aussi une différence des musées nord-américains. Je dis des musées nord-américains parce que je pense que c'est également un Nathalie Bondil qui à Maastricht souvent achète une œuvre. Parce qu'elle a une somme discrétionnaire également comme ça, et donc on peut faire confiance aux conservateurs. Ils achètent une œuvre, ils n'ont pas besoin de passer par 50 commissions. Alors est-ce que c'est justement, les commissions, quand c'est pas discrétionnaire, quand vous n'avez pas forcément, c'est au-dessus de 50 000 dollars, et vous devez demander l'autorisation, ça peut aller vite ou pas? Parce qu'en France, c'est très long.
Oui, parce que, je pense qu'on peut arriver dans des cas, il me semble me souvenir qu'au Louvre, quand il y avait quand même quelque chose.
Le Louvre, c'est différent. Le Louvre, parce qu'il est assez autonome.
N'attendez pas.
Le Louvre est assez autonome. C'est moins vrai des musées de province qui souvent ont du mal à réagir très rapidement.
Alors, nous, il y a une procédure par email. Enfin, donc, ça, c'est une chose très très différente de la France, en tout cas, c'est que le comité d'acquisition, il est essentiellement composé de membres du board, auxquels s'ajoutent un certain nombre d'autres membres qui peuvent être choisis et qui sont choisis pour leurs compétences. Mais les autres, ce sont des membres du board, c'est-à-dire des gens qui, généralement, sont là pour donner un soutien financier au musée. Qui sont souvent aussi des collectionneurs, mais en tout cas pour ce qui est de la peinture ancienne, il y en a très peu qui s'intéressent à la peinture ancienne. Mais dans le cas d'une œuvre, si j'ai besoin d'acheter une œuvre de manière très rapide, il y a une procédure par email où on envoie tous les membres du board.
Et donc, mettons un ou deux jours, ça peut se faire.
Non, alors en général, on leur demande de répondre dans la journée. Hein.
C'est quand même quelque chose ça, qui
est extraordinaire, je trouve. On n'a pas besoin de les avoir absolument tous. On atteint 50%...
Et je n'arrive pas à comprendre, ça, c'est une chose, je pense que beaucoup de vos collègues français aimeraient pouvoir faire ça. Enfin, c'est une chose que de pouvoir acheter vite. Alors, des fois, il ne faut pas se tromper, effectivement. Mais ça, après, c'est le travail du conservateur.
Oui. Mais on se trompe.
Et on peut se tromper. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, si vous vous trompez, vous pouvez revendre. Est-ce que vous revendez d'ailleurs? Est-ce que le musée de Dallas revend?
Alors moi, je me souviens toujours. Alors moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est un débat complexe là, ce qu'on appelle la deaccession, c'est-à-dire de pouvoir se séparer d'œuvres des collections du musée. La première, c'était une remarque d'Éric Zaffran, qui était un conservateur, qui était encore il y a peu conservateur au Wadsworth Athénéum et qui était avant au musée de Boston. Et j'avais été avec lui, quand je faisais un stage avec lui dans les années 90, on était descendu voir ce qu'il y avait comme œuvre à vendre, qu'on pouvait vendre. Et je m'étais en bon petit élève de l'école du patrimoine, j'avais dit mais c'est abominable, etc. Comment peut-on se séparer d'œuvres des collections En fait, Éric Zaffran avait répondu, si on estime qu'on est capable d'acheter, on est capable de faire les mêmes choix pour vendre. Alors, on peut évidemment se tromper dans les deux cas.
Alors, c'est un autre débat, c'est intéressant de voir que finalement, en travaillant aux États-Unis, on évolue par rapport à ça. Bien mais sûr. Ce sont des collections qui sont situées différemment.
Et ça, c'est la grande différence. C'est que ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles à des musées, en particulier les grands musées nationaux français, mais c'est pareil pour l'Espagne, c'est pareil pour l'Italie. C'est probablement légèrement différent en Angleterre, en dehors peut-être du British Museum ou de l'Ashmolean. Les collections françaises, en tout cas les collections nationales, ce sont souvent des collections qui sont des collections, je dirais presque, d'identité nationale. Les collections du Louvre, il y a des objets qui sont au Louvre depuis 1200 et quelque chose. C'est des choses qui étaient, si on prend les régalias, vendre ou imaginer vendre des régalias, c'est vendre les archives de la nation ou l'identité de la nation. On ne peut pas jouer de la même façon avec des collections qui ont été constituées, je dirais, par l'histoire de la nation, avec des collections qui sont le fruit de collections privées aléatoirement données à un musée. Rien n'est simple ni dans un sens ni dans un autre. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles dans des contextes qui sont si différents.
Et si vous vendez, c'est pour acheter, c'est uniquement.
Ah oui. Alors, il y a eu un exemple récemment du Bellows.
Oui, c'est le tableau qui a été vendu à l'Angers et Londres. Mm-hmm. Et je sais que le musée vendeur s'est fait taper sur les doigts.
Tout à fait,
et
récemment.
Donc, mais qu'est-ce qu'il risque, le musée vendeur ?
D'être exclu de l'association des musées américains. Ça paraît pas très grave, mais c'est quand même très très grave. Non, je veux dire, c'est très grave d'être exclu.
Ouais.
Après, voilà, il y a aussi il y a des questions de survie. Non, c'est clair.
On a parlé des questions des expositions. Quelles sont les expositions du Dallas Museum of Art? Alors, restons dans notre.
Dans notre champ. Les expositions à venir, il y a deux expositions dans les mois qui viennent, je dirais. La première qui va débuter à la fin du mois de juin, pour 3 mois, c'est une exposition sur les œuvres sur papier, donc sur le dessin, au musée de Dallas pour la partie du 19e, c'est le 19e européen, les collections du musée de Dallas et quelques collections particulières de Dallas et Fort Worth. Dans lesquels je veux dire que j'ai découvert énormément de choses et avec énormément de plaisir j'ai découvert deux très très belles collections que je ne connaissais pas.
Et la deuxième.
Donc
un catalogue, je suppose.
Ah oui, un catalogue avec les meilleurs spécialistes mondiaux de. Non, on a, je veux dire, Louis-Antoine Pratt, on a été ravis que Louis-Antoine Pratt participe, Laurence Linares, Sylvie Patry. Félix Kramer à Francfort, enfin bon, on a Esther Bell. Enfin,
elle ira ailleurs cette exposition ?
Non, uniquement à Dallas. Et ensuite, il y a une exposition qui va tourner, qui est une exposition faite par le musée de Dallas et le musée de Richmond sur la nature morte de fleurs au 19e siècle, un long 19e siècle, puisque ça commence évidemment à la fin du 18e et ça se termine légèrement au début du 20e, et qui est une revisitation du thème et des raisons de l'évolution de la nature morte de fleurs, qui est un sujet qui a souvent été considéré un petit peu comme un sujet trop facile, mais regarder d'un point de vue de la botanique, regarder d'un point de vue de l'évolution sociale, regarder d'un point de vue de la poésie, etc. Je pense que c'est une exposition qui fera date sur ce sujet.
Livre.
Maintenant, quelques livres ou quelques catalogues reçus, il y en a eu pas mal cette semaine, très bref, hein, ce ne sont pas des ouvrages que j'ai encore eu le temps de lire ou que mes collaboratrices ont eu le temps de lire, mais simplement un petit mot, le musée d'Aquitaine, les amis du musée d'Aquitaine ont publié, le musée d'Aquitaine, pardon, a publié un petit volume sur les 20 ans d'acquisition du musée d'Aquitaine, donc qui est un musée d'histoire surtout, mais qui a également des œuvres d'art. Et je retiens un beau portrait de l'architecte Victor Louis, donc l'architecte du théâtre de Bordeaux, par Pierre Lacour, qui est un des grands peintres de Bordeaux. Donc c'est un tableau qui est assez beau, qui a été acheté en 2013. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que je fasse une brève à ce sujet. Autre livre, le catalogue d'une exposition de Watteau à Fragonard, les fêtes galantes. C'est l'exposition du musée Jacques Barandré, et vous aurez une recension de cette exposition par Moana Veille-Curiel très bientôt sur le site. Un ouvrage également qui s'appelle Guillaume Bayet de Saint-Julien, 1726-1795, un amateur d'art au XVIIIe siècle, publié par Honoré Champion, et l'auteur est Nathalie Manceau. Donc c'est un amateur, l'exemple d'un amateur d'art oublié du siècle des Lumières, qui a fait partie des critiques d'art qui apparaissent à la fin de la première moitié du XVIIIe siècle, à la suite de Lavon de Saint-Tienne. Donc je lis un petit peu la quatrième de couverture, donc un ouvrage très savant, que nous mettrons bien sûr dans les ouvrages reçus. Alors également, et c'est l'occasion, d'ailleurs nous en parlions juste avant l'émission avec Olivier Mellet, de souligner le travail extraordinaire fait par les presses universitaires, en particulier les presses universitaires de Rennes, qui publient un nombre de thèses, un nombre d'ouvrages fondamentaux, extrêmement importants, et maintenant, désormais, en fait, sont souvent très bien illustrés. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle Baptiste Pellerin et l'art parisien de la Renaissance, donc sur un peintre de la seconde moitié du XVIe siècle, manifestement un peintre qui a donné des cartons pour des vitraux, beaucoup de dessins, c'est très bien illustré, et c'est un ouvrage que l'on doit à Marianne Grivel, Guy-Michel Leproux et Audrey Nassieu-Maupas, Baptiste Pellerin et l'art parisien de la Renaissance. Comme autre, alors nous parlions tout à l'heure du salon du dessin, donc par exemple 3 ou 4 catalogues parus, donc nous en parlions tout à l'heure du catalogue d'architecture et ornement de Paul Proutet, de la galerie Paul Proutet, publié par la galerie Paul Proutet, et c'est un superbe catalogue avec de magnifiques dessins, et les notices sont écrites par Peter Furing, qui travaille à la Fondation Custodia, qui est un des grands spécialistes du dessin d'architecture et de l'architecture. De Bosch à Blomart, c'est le catalogue des dessins de Rotterdam, du musée Wellmans-Bellingen de Rotterdam, qui sont exposés actuellement, ça c'est important de le signaler, à la Fondation Custodia. On ne dira jamais assez de bien de la Fondation Custodia, qui est un lieu magique, qui d'ailleurs évolue beaucoup actuellement, puisque, hélas, l'Institut néerlandais est parti, a été terminé, n'existe plus, c'est une décision du gouvernement des Pays-Bas. Mais, heureusement, tout le bâtiment est conservé pour un usage culturel, un étage, puisque le bâtiment appartient à la Fondation Custodia, donc la Fondation Custodia peut s'étendre, c'est-à-dire qu'elle a deux lieux d'exposition qui maintenant sont consacrés en plus à l'art ancien, donc c'est formidable, donc là il y a deux pour nous c'est vrai qu'on a plus d'art ancien encore, et il y a un étage qui va être loué par cette fondation américaine, la Terra Foundation. Donc, ça vous intéresse certainement, puisque oui, c'est l'art américain. Et donc, ils organiseront au sein de cet immeuble de la Fondation Custodia, sur un étage, des expositions. Donc, la Terra Foundation s'installe à la Fondation Custodia. Bah, donc, c'est quelque chose dont on doit parler très également, puisque apparemment, ce n'était pas forcément très connu. Nous avons reçu également Dessins des écoles du Nord du 15e au 18e siècle, collection Jean Bonnat. Alors, bien sûr, vous connaissez Jean Bonnat. J'avais fait une interview à l'époque, il y a quelque temps, de Jean Bonnat, qui est un grand collectionneur genevois. Et là, ce sont ces collections des écoles du Nord du 15e au 18e siècle. Donc, c'est un catalogue qui vient de paraître chez Sylvana Editoriale. Quoi encore? Quelques livres. Un livre que nous avons reçu juste avant, un énorme livre sur Gréco, que nous avons reçu juste avant d'enregistrer cette émission. Gréco, biographie d'un peintre extravagant, par Fernando Marias, édité par Cohen et Cohen. J'ai à peine eu le temps de le feuilleter, c'est un gros travail. Je ne sais pas si c'est un ouvrage qui fera ou non référence. En tout cas, nous venons de le... Il vient de paraître. Je me retourne une dernière fois vers vous, Olivier Mellet. Un mot sur Henri-Pierre Danlou, qui est un des artistes sur lesquels vous avez travaillé, et avec une attribution. Enfin, donc, dites-nous, est-ce qu'il y a. Vous continuez à travailler sur cet artiste?
Alors, j'ai continué. Ça fait trop longtemps, évidemment, que je travaille sur Danlou. D'habitude, quand je travaille sur quelque chose, je le publie relativement vite et je ne tiens pas à garder mes dossiers trop longtemps. Bon, il se trouve que Danlou, c'était peut-être. J'étais un peu trop ambitieux en voulant le faire à la fois la publication de son journal, qui est une chose très très importante pour la connaissance à la fois du milieu artistique anglais et le milieu de l'émigration. Alors j'espère que pouvoir reprendre très très vite ce travail pour publication. Je suis encore en train de discuter de ça avec certains collègues. Et donc c'est un travail, je dirais classique de catalogue d'une œuvre.
Avec une œuvre qui fait un peu, qui fait un peu polémique finalement. C'est-à-dire que vous avez réattribué le patineur d'Henri Rebern de la National Gallery d'Édimbourg. C'est bien ça,
mais c'est pas moi qui l'ai réattribué.
Vous avez endossé en tout cas une réattribution.
Oui, j'ai endossé la réattribution.
À Henri-Pierre Danlou. Mais c'est assez contesté parce que on lit de temps en temps. D'Henri Rebern, Danlou.
Voilà. Qui était en fait un tableau qui est un tableau iconique littéralement, puisque les portes de la National Gallery d'Édimbourg sont faites suivant la découpe du patineur, tous les sacs sont de la boutique du musée sont faits comme ça, et je crois même que la silhouette du patineur est sur le parlement d'Édimbourg. Et évidemment, tout ça allait très bien quand le peintre qui avait fait cette œuvre était un peintre écossais, et même le premier grand peintre écossais qui était Sir Henri Rebern. Jusqu'au moment où c'est Stephen Lloyd qui a publié le premier article sur la réattribution à Danlou, qui est à mon avis une réattribution complètement convaincante, qui marche parfaitement. Danlou est allé en Écosse, Danlou a fait plusieurs portraits en Écosse, il a fait le portrait, le Charles X évidemment, mais il a fait surtout un certain nombre de portraits de la grande aristocratie écossaise et un certain nombre de personnes en Écosse. Donc, d'un point de vue des dates, tout colle. Dans son journal, il n'y a pas de traces des portraits faits en Écosse, tout simplement parce que quand il était en Écosse, il ne tenait pas son journal. Donc, mais tout à fait, enfin, pour moi, il n'y a pas de doute sur l'attribution.
Alors, est-ce que vous avez d'autres sujets en cours purement histoire de l'art, ou est-ce que vos fonctions ne vous laissent pas le temps de faire finalement toute la recherche que vous souhaiteriez ?
J'aimerais toujours faire d'autres plus de recherches, mais non, je continue à avoir une sorte de jardin privé, un jardin secret de recherche comme ça,
diverses. Dont vous parlerez quand vous publierez.
Oui, c'est ça. Il y a des choses très variées. Soit c'est des collections du musée, soit c'est des collections extérieures au musée sur lesquelles ça peut m'arriver de travailler parce que j'ai une idée.
Pour terminer, vous avez vu des choses un peu en Europe depuis que vous êtes arrivé, vous étiez à Maastricht déjà?
Alors à Maastricht, j'en ai profité un peu plus que d'habitude, parce que je suis allé voir Aix-la-Chapelle, que je n'avais jamais visité, qui reste quand même, malgré la guerre, un endroit où il y a quand même une sorte de vision de l'Europe au travers de Charlemagne et une sorte de retour vers le passé qui est quand même toujours très spectaculaire. Je suis allé visiter le nouveau Rijksmuseum, que j'ai trouvé tout à fait réussi. C'était trop rapide, évidemment, la visite, mais j'ai trouvé le mélange des sculptures, des arts décoratifs et même de certains aspects d'histoire tout à fait convaincant. Bon, les collections sont évidemment complètement spectaculaires et extraordinaires. Donc, ça, c'était un très grand plaisir. Et puis ensuite, à Bruxelles, j'ai vu l'exposition, parce que le musée de Dallas faisait une exposition d'art contemporain pour consacrer un artiste tout à fait remarquable qui est Michael Bormans. Et dans le même bâtiment de Beaux-Arts, ce qu'on appelle Beaux-Arts, il y avait l'exposition sur Zurbaran, faite par Ignacio Cano, et qui était très bien, qui est une exposition faite simplement, chronologiquement, thématiquement, dans la chronologie, avec des choses, des œuvres tout à fait remarquable. Bon, on les connaissait pour beaucoup. C'est un artiste sur lequel tout le monde travaille et qui a été extraordinairement renouvelé dans les 20 dernières années. Je trouve que c'était intéressant de voir justement ce travail sur Zurbaran présenté. Il y a encore des questions. On se pose encore beaucoup de questions en voyant les œuvres de Zurbaran. Mais c'est vrai que l'évolution est aussi très intéressante, et je veux dire que la clarté du propos était tout à fait engageante, je dirais. Et puis enfin, la visite du musée fin de siècle à Bruxelles, qui est au sein du musée, ce qu'on appelle les musées royaux, avec une collection qui est tout à fait extraordinaire, mais qui, à mon avis, était un petit peu décevante d'un point de vue de la présentation et du manque d'expérience. explication. Je trouve que c'est une collection remarquable et dont on a l'impression qu'elle a été accrochée plus qu'elle n'a été présentée.
D'accord, bah écoutez, merci. Merci beaucoup pour avoir partagé ces moments avec nous. Donc la prochaine émission de la Semaine de l'Art sera diffusée vendredi prochain à 18h, pas jeudi, pas mercredi. Alors c'est vrai que ça change un petit peu des journées en fonction de l'emploi du temps. C'est vrai que Olivier Meller partait demain, donc
oui, je suis arrivé hier matin.
Donc nous l'invitions mercredi. Merci en tout cas d'être venu spécialement nous voir. Et donc la semaine prochaine, nous recevrons Adrien Goetz vendredi prochain à 18h. Merci, à bientôt.